the 13.
نبدأ الجلسة الثالثة عشرة للجمعية.
La 13e séance de l'Assemblée générale est ouverte. Nous allons poursuivre le débat général. L'Assemblée va entendre une déclaration de son Excellence Timothy Harris, Premier ministre, ministre au développement durable, à la sécurité nationale, à l'autonomisation des peuples et des électeurs de Saint-Christophe et Nevis. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. J'ai grand plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre de Saint-Christophe et Nevis. Je l'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur que de parler au nom de la Fédération de Saint-Christophe et Nevis pour m'adresser une fois de plus à l'Assemblée générale. Permettez-moi d'emblée de vous remercier, Madame le Président, pour votre élection à la tête de cette Assemblée à un moment particulièrement significatif en tant que première femme du groupe d'Amérique latine et des Caraïbes à occuper le poste. Je puis vous assurer tout le soutien de mon pays tout au long de votre présidence. Au cours de la séance d'ouverture de la présente session de l'Assemblée générale des Nations unies, nous avons entendu des citations de l'ancien secrétaire général Kofi Annan de Rose Mémoire, dans lesquelles il défendait l'idée que pour résoudre tous les ventails des problèmes du monde, les Nations unies étaient essentielles. Le multilatéralisme, le système des Nations unies se trouvant en son cœur, a longtemps été la source de notre engagement mondial. Les Nations unies ont été, sont et continueront d'être essentielles pour la paix mondiale, le progrès et la prospérité du monde. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de progresser d'urgence et de réformer l'ONU en la rendant plus positive, sachant répondre aux besoins, aux inquiétudes de tous et en particulier des petits États insulaires en développement, les SIDS. L'ONU est devenue trop soucieuse des sommets et trop peu des actes. Le déficit de coopération entre les États membres fait obstacle à la marche de l'humanité. Une organisation réformée doit devenir une instance où l'on agit davantage et où l'on parle moins. Nous devons agir d'urgence. Et les changements climatiques, les maladies non transmissibles, la coopération mondiale, la paix, la prospérité et le réaménagement du système financier international. Le thème de cette année est le suivant : faire de l'ONU une organisation pour tous. Une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service de sociétés pacifiques, équitables et durables. Ma délégation est d'avis que ce thème nous permet de nous attaquer aux inégalités et à l'injustice de l'ordre international en matière de développement. Et nous demandons un paradigme de développement durable, plus inclusif et plus équitable. Monsieur le Président, mon pays, même s'il est le pays le plus petit de notre continent, a toujours eu ses propres objectifs, bien avant les ODD et les OMD. Il y a environ une semaine, nous avons fêté les 35 ans de notre indépendance. Nous avons beaucoup progressé, nous avons beaucoup allégé la pauvreté chez nous. Nous avons fourni une éducation gratuite au niveau de l'école secondaire et primaire. Nous avons fourni un accès aux soins de santé à des prix abordables et nous avons renforcé le niveau de vie de tous nos citoyens et de tous ceux qui résident chez nous. Tous ces acquis pourront être anéantis par le phénomène des changements climatiques. Les dommages qu'a connu l'Organisation des États des Caraïbes orientales et toute sa sous-région à cause des ouragans Irma et Maria sont inconcevables. La conférence d'annonce de contribution de haut niveau des Nations Unies, qui s'est tenue à la suite de ces ouragans, a été une tentative pour ouvrir la voie menant à une plus grande résilience et devait permettre, nous permettre de mieux nous reconstruire. Nous demandons que les États membres qui se sont engagés honorent leurs engagements aussitôt que possible. Nous félicitons les pays qui ont déjà d'ailleurs honoré ces engagements, mais il reste encore beaucoup à faire pour rétablir la situation dans les pays les plus affectés. Mais pour cela, il faut qu'il existe des partenariats internationaux vigoureux et sérieux, ainsi que durables. Nous voudrions mettre en exergue d'un côté nos vulnérabilités inhérentes face aux catastrophes naturelles, mais aussi d'un autre notre détermination sans faille à maintenir une société durable. Notre responsabilité est claire. Au niveau individuel, autant que collectif, nous devons nous engager à réduire le nombre de matières nuisibles que nous émettons dans notre environnement. Il est fort regrettable que des nations comme la mienne continuent d'avoir à rembourser une dette que nous n'avons pas créée. Nos peuples voient l'impact des changements climatiques pour leur vie, leurs moyens de subsistance. Les changements climatiques sont largement la conséquence d'actions de pays développés, de leurs émissions de carbone et de leur style de vie nuisible. Et pourtant, nos pays payent un prix injuste, un prix si élevé que pour beaucoup d'entre nous, les changements climatiques présentent une menace existentielle. Comment l'ONU peut-elle nous aider notre région face à la présence des algues, des sargasses qui ont déjà eu un impact négatif sur les Caraïbes? Le phénomène des sargasses a déjà affecté notre milieu marin, en particulier nos pêches côtières et à tout toucher négativement les recettes des pêcheurs de la région. Des hôtels, des plages et d'autres activités touristiques ont subi un grave impact. J'espère sérieusement que l'appel que je lance aujourd'hui à la communauté internationale pour qu'elle intervienne donnera des résultats et que des secours seront offerts aux peuples de notre région. Nous devons tenir les pays responsables de la dégradation de l'environnement, non seulement dans leur juridiction, mais également face à la dégradation qu'ils provoquent dans d'autres États. Le système des Nations Unies nous offre le meilleur moyen d'agir de la sorte. Nous accueillons favorablement les mécanismes de financement qui ont été mis en place pour venir en aide aux pays, en particulier les petits pays insulaires en développement si vulnérables. Néanmoins, le processus doit être transparent, d'accès facile et surtout, les engagements des pays donateurs doivent porter leurs fruits. Cela étant dit, la communauté internationale ne saurait d'un côté affirmer aider nos États, alors qu'en même temps, ils nous classent dans la catégorie des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire ou à revenu élevé en se fondant sur des modèles financiers archaïques et en fin de compte refusent l'accès à une assistance au développement essentielle et freinent le financement par le moyen d'investissement. Nous réaffirmons l'appel que nous avons lancé à la communauté internationale pour qu'elle réponde d'urgence aux mesures stériles du revenu par habitant qui est employé actuellement. Un autre élément tout aussi important, ce sont les questions des garanties face aux risques de catastrophe. Il faut reconnaître les vulnérabilités particulières des petits États. Il faut y répondre. Mon pays demeure attaché aux ODD et aux engagements de la voie de Samoa. Les efforts de développement des petits États sont déjoués à cause d'une architecture financière injuste qui menace de réduire le coût des risques, avec la menace que présente la réduction du coût des risques et la perte des relations bancaires qui correspondent. À cela, il faut ajouter la liste noire discriminatoire et irrationnelle des pays qui sont forcés de détourner des ressources rares pour répondre aux exigences arbitraires et coûteuses du Code de conduite de l'Union européenne et d'autres entités créées par des pays développés. Il est absolument injuste de soumettre certains pays à une évaluation et même à des normes qui ne cessent de fluctuer alors que d'autres en sont exonérés. Les menaces pour la survie des petits États et bien réel. C'est pourquoi je demande à cette instance de faire comprendre le sort de petits États tels Christophe et Nevis en parlant au premier rang du discours international. Il faut mettre un terme à ces pratiques discriminatoires. Mon pays et d'autres petits États tentent de relever les défis que représente l'architecture financière internationale. Et ceci est très coûteux pour nous. Néanmoins, la fréquence et la nature arbitraire de ces exigences multilatérales vouent à l'échec des efforts de développement essentiels dans les petits États. J'affirme ici que nous méritons, que nous avons le droit de nous attendre à plus de justice, de transparence et de cohérence dans la façon dont on traite tous les États. Un système financier fondé sur des règles claires qui s'appliquent à tous les États, tel doit être notre objectif collectif. Mon gouvernement sait parfaitement que sans paix, il ne saurait y avoir de prospérité pour tous. Nous avons fait face avec énergie au problème du crime et de la violence, et ce sur plusieurs fronts. Nous condamnons tous les actes de violence et nous soutenons les efforts déployés pour maintenir la paix. Mon gouvernement aura recours à toutes les ressources disponibles pour parvenir à une société stable, pacifique et équitable que notre peuple attend et bien sûr mérite. Saint-Christophe et Nevis soutiennent l'appel lancé à la diplomatie. Il faut avoir recours à la diplomatie pour répondre aux conflits du monde. Et nous sommes particulièrement encouragés par le dialogue positif qui se déroule actuellement sur la question de la péninsule coréenne. Les Caraïbes sont une zone de paix. Et notre philosophie très claire consiste à défendre la paix, l'amitié et le dialogue tout en évitant les conflits avec d'autres territoires. À cet égard, un monde dénucléarisé est l'objectif le plus désirable pour toute l'humanité. Dans toutes les Caraïbes, nous souffrons d'un accroissement des crimes liés au commerce des armes légères et de petit calibre et des drogues. Le flux des armes est manifeste dans les Caraïbes. Or, ce n'est pas dans les Caraïbes que l'on les fabrique, ces armes, mais elles sont liées à un appétit insatiable des drogues en Occident. Nous n'avons pas le pouvoir nécessaire pour maîtriser unilatéralement l'entrée d'armes dans notre région. Nous ne pouvons pas, nous, lutter contre les coutumes qui entraînent ce commerce mondial dangereux des drogues. Nous demandons l'assistance de la communauté internationale alors que nous œuvrons inlassablement pour répondre à ce fléau. Mon pays demeure pleinement attaché au traité sur le commerce des armes. Nos crédits budgétaires internes augmentent en la matière, ce qui prouve notre attachement au maintien de la sûreté et de la sécurité. Monsieur le Président, Saint-Christophe et Nevis est heureux que cette semaine encore, l'Assemblée générale a décidé d'accélérer les interventions multipartites et multisectorielles pour assurer la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles dans le contexte du programme de développement durable à l'horizon 2030. Notre région demeure affectée par la charge malheureuse qu'imposent ces maladies dans nos sociétés et nos économies. Les statistiques sont éloquentes et frappantes. 8 décès sur 10 dans les Caraïbes sont dus aux maladies non transmissibles. 40% sont des décès prématurés et 70% pourraient être prévenus. L'hypertension est le principal facteur de mort. Le diabète dans les Caraïbes est le double du taux dans le monde. Nous heurtons à une crise des maladies non transmissibles dans notre région. À cet égard, nous nous félicitons du lancement du partenariat anti-maladies non transmissibles cette semaine. La CARICOM et l'Agence de santé publique des Caraïbes fourniront tout leur appui à ce nouveau partenariat. Nous soutenons une approche d'ensemble face à la santé et j'ai le plaisir de signaler que nous faisons un effort considérable pour faire en sorte que un élément essentiel de la santé mondiale, à savoir la couverture sanitaire universelle, devient une réalité pour tous les citoyens de notre pays. Je dois pourtant rappeler que les changements climatiques et les maladies non transmissibles font partie de la même médaille. Ce sont les symptômes de l'échec du paradigme de développement existant. Monsieur le Président, mon gouvernement croit en une société équitable qui doit être une réalité pour tous les citoyens de notre pays. Nous honorons notre engagement. Nous voulons transformer notre monde par le biais du programme à l'horizon 2030. Et nous nous sommes efforcés de créer une voie équitable en améliorant le niveau de vie pour les plus vulnérables afin qu'ils puissent devenir autonomes et de bons citoyens et résidents de notre pays. En conclusion, Monsieur le Président, je ne saurais manquer de dire un mot sur notre cher ami Taïwan. Mon gouvernement estime que les Nations Unies sont une organisation pour tous les peuples, y compris le peuple de Taïwan. Nous croyons fermement que Taïwan a un rôle important et continue à jouer dans les stratégies de développement international, car ils ont connu de grands succès en matière de technologie, d'agriculture, de santé et d'énergie renouvelable. Nous défendons l'idée que Taïwan reçoive un espace pour ajouter au dialogue, au progrès et au bien-être de la communauté mondiale. Nous continuons également d'exprimer notre appui à notre sœur des Caraïbes, Cuba, et nous demandons la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis d'Amérique afin d'alléger les souffrances bien réelles provoquées par cette politique d'exclusion à l'égard du peuple cubain. Mon pays sait parfaitement quelles sont les difficultés actuelles au Venezuela. Le Venezuela a été un très bon ami des Caraïbes et de Saint-Christophe et Nevis. Et nous continuons de demander un dialogue pacifique pour résoudre les problèmes du Venezuela en tenant dûment compte de l'état de droit et des idéaux démocratiques qui nous sont chers. En conclusion, Monsieur le Président, je dois nous rappeler que notre peuple veut que l'on agisse. Nous voulons des résultats. Nous devons faire en sorte que tous les dirigeants du monde se réunissent pour créer et maintenir la stabilité, l'égalité et la paix dans nos pays, pour que nos contributions collectives puissent empêcher et éviter des guerres et la violence, mettre terme à la prolifération des armes nucléaires, réduire les émissions de gaz à effet de serre et créer une situation équitable qui permettra aux petits États de s'épanouir. Soyons toujours conscients, soyons toujours dynamiques. Veillons à ce qu'aucun pays ne reste à la traîne, à la recherche et dans la mise en œuvre du programme à l'horizon 2030. Nous avons une responsabilité partagée. Nous devons créer les meilleures possibilités. Nous devons répondre aux attentes de nos générations actuelles et futures. Je suis convaincue, Monsieur le Président, que si nous continuons d'œuvrer avec fermeté, si nous sommes toujours vigilants et ciblés, si nous toujours compte de nos grands objectifs, nous contribuerons à une organisation plus pertinente et juste, productive et sérieuse. Et en conséquence, nous contribuerons à créer un monde meilleur pour tous les peuples. Merci, Monsieur le Président.
On behalf of the General Assembly,
au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre de Saint-Kitts et Nevis pour son allocution. Je prie les services du protocole de raccompagner son Excellence. L'Assemblée va à présent entendre une allocution.